France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, on ne va pas mégoter. On s'intéresse à la fin de la cigarette dès juillet prochain sur les plages, dans les parcs et jardins publics, dans les équipements sportifs aussi, dans les abribus ou aux abords des écoles. Braver cette interdiction pourra d'ailleurs vous coûter 135 euros. En cette veille de journée mondiale sans tabac et alors que le tabagisme baisse en France, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a donc annoncé ce matin toute une série de nouvelles restrictions de fumée. Les cigarettes électroniques ne sont pas concernées pour l'instant, pas plus que les terrasses de café. Restreindre les lieux qui acceptent la cigarette, est-ce une pure mesure de santé publique, sachant que chaque année, un décès sur 10 est lié au tabac, ou est-ce plutôt une mesure budgétaire pour ce gouvernement qui cherche 40 milliards d'économies par an, sachant que le cancer coûte chaque année 150 milliards d'euros. Restreindre l'usage de la cigarette, qu'en pensez-vous? Faut-il aller encore plus loin? Ou bien faites-vous partie au contraire de ceux qui estiment que c'est d'abord une nouvelle atteinte à nos libertés? Eh bien, appelez-nous, vos questions, vos témoignages, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec au standard un premier appel de Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Vous nous appelez de la Sarthe.
J'appelle de la Sarthe, oui, du Mans.
Quelle est votre question ou témoignage?
Alors moi, mon témoignage, hein, c'est-à-dire que je suis non-fumeuse et néanmoins...
On n'entend pas très bien. Vous êtes non-fumeuse, c'est bien ça?
Je suis non-fumeuse, ouais. Oui. Je suis non-fumeuse, voilà, et néanmoins, je suis vraiment en colère hein, contre cette interdiction. C'est pour moi, c'est une atteinte à la liberté de chacun, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un motif de division entre nous tous, voire de discrimination. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On avait déjà des lieux no kids, hein, maintenant avoir des lieux sans fumeurs, et la question que je me pose, c'est jusqu'où ira-t-on? Et à l'argument santé, il y aurait beaucoup à dire, avec la loi du plomb, les ZFE, etc., etc., il y aurait beaucoup à dire.
Eh bien, merci de...
Dernier mot, en fait, je vous l'ai dit, je suis non-fumeuse, et en fait, l'odeur de cigarette, pour moi, elle est vraiment agréable, en fait. Quand je suis à une terrasse, c'est agréable d'avoir des gens qui fument autour de moi. Ça convoque vraiment un sentiment festif, un sentiment de détente.
Eh bien, merci de l'avoir dit ce soir à France Inter. Et pour vous répondre ce soir, au téléphone sonne trois invités. Loïc Josserand, vous êtes le président de l'Alliance contre le tabac. Vous êtes médecin et professeur de santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Invité également Gilles Lurton, qui est maire LR de Saint-Malo. Une dizaine d'années déjà que la plage a ses zones non-fumeurs à Saint-Malo. Nous verrons ça dans un instant avec vous, Gilles Lurton, et également invité Philippe Coy, qui est le président de la Confédération des buralistes. Premier appel à l'instant, c'était Nathalie avec son coup de gueule qui voit une atteinte à nos libertés. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, cette interdiction de fumer qui s'étend à toutes les plages, aux jardins et aux proximités des écoles. Certes, ça ne fait pas vos affaires et vous y voyez, vous aussi, une atteinte?
Écoutez, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème plutôt de société et de bien vivre ensemble. Il y a déjà à peu près 1600 communes qui ont opté pour des espaces sans tabac, des plages, des parcs, des enceintes scolaires. Bien évidemment, c'est la responsabilité de tous, c'est la bienveillance, c'est le bien vivre ensemble. Et là où je peux m'associer à l'auditrice, c'est que est-ce qu'on a besoin d'une loi de sanctions pour éduquer les gens à vivre ensemble, le respect mutuel. En tous les cas, c'est ma philosophie et je pense que les Français aujourd'hui en ont ras-le-bol d'interdits, de contraintes, d'infantiliser les citoyens. Personne ne dira que fumer est bon pour la santé et je suis président des buralistes et buralistes depuis 25 ans. Je n'ai jamais eu un autre discours. C'est un produit d'abord qui est légal, vendu sous le compte de l'État. On sait que fumer est dangereux pour la santé. D'ailleurs, nous travaillons à des offres alternatives. Doit-on aujourd'hui procéder à des effets d'annonce, parce qu'on est à la veille de la journée sans tabac, avec ce genre de dispositif? Et au demeurant, s'il était utile ce dispositif, comment va-t-il être appliqué? On en a aussi ras-le-bol de voir des mesures prises qui ne sont pas appliquées, qui ne servent pas la cause commune. En tous les cas, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est pas un sujet économique, c'est plutôt un sujet sociétal et de respecter les uns et les autres.
Et Gilles Lurton, vous êtes donc le maire LR de Saint-Malo, et ça fait une dizaine d'années qu'à Saint-Malo, vous avez instauré des zones sur les plages, et même dans la ville aussi, où la cigarette est interdite. Quel a été le retour des vacanciers, des plagistes, ou des malouins, une fois que vous avez lancé cette opération? Quel retour avez-vous eu?
Oui, bien, bonsoir. Nous avons effectivement, dès 2013, en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer, mais en 2015, nous avons prorogé la mesure de la propre volonté du maire de l'époque, je n'étais pas maire à ce moment-là, d'interdire sur une partie des plages de la ville. On prend la plage de Bonsecours, la plage de l'Éventail, la plage du Pont, on prend la moitié de la plage, on coupe en deux, et sur une partie de la plage, on met des pancartes, plage de Saint-Amand. Et je dois dire que ça s'est très, très, très bien passé. Nous avons la chance d'avoir des compagnies républicaines de sécurité qui viennent renforcer les forces de secours sur la plage du 1er juillet au 31 août. Nous avons des maîtres nageurs sauveteurs. Nous avons une police municipale qui intervient fréquemment sur les plages et qui a su rappeler aux personnes qui souhaitaient fumer sur les parties de plage sans tabac qu'ils pouvaient aller plus loin. Et puis au final, je remarque que le système, il s'est presque autorégulé. Quand une personne qui ne fume pas voit une personne fumer sur la partie plage sans tabac, eh bien, ils se le disent, les gens peuvent se parler entre eux, et ça a très très bien fonctionné.
Je voudrais ajouter une réaction à l'instant d'une auditrice par SMS, Karine, qui dit elle aussi qu'elle est non-fumeuse. Elle trouve incroyable d'interdire la cigarette quand on réautorise les néonicotinoïdes. Loïc Josserand, je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance contre le tabac. Philippe Coy disait que c'était surtout un problème économique pour la santé, pas tellement d'action et de conséquences directes, dit-il.
Non, je suis assez surpris des réactions des
je auditrices. Je demande de parler bien devant le micro parce que...
Je suis assez surpris, pardon, des réactions des auditrices, effectivement. Il faut quand même rappeler que plus de 7 Français sur 10 souhaitent ces interdictions. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très attendu. 9 adolescents en France sur 10 attendent des mesures plus strictes sur le tabac, justement pour protéger leur santé et aller vers une génération sans tabac. Le tabac et là, les arguments que nous entendons de la part notamment du président des buralistes sont des arguments que nous avons déjà entendu à une époque qui était 2006, le décret Bertrand, qui à l'époque sortait le tabac des restaurants. Nous avions déjà ces arguments de bien vivre ensemble, on voit que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème. Donc arrêtons d'essayer de faire croire que tout ça est une forme de manipulation qui va viser à jeter les Français les uns contre les autres, avec d'un côté les fumeurs et de l'autre côté les non-fumeurs. Et comme le rappelait très bien Monsieur le maire, tout se passe bien. Et il y a le plus souvent, et je n'ai jamais entendu d'ailleurs parler de difficultés, et ça se passe toujours bien. Et cette acceptation des zones et du respect des zones non-fumeurs dans ce genre de choses, dans ce genre d'endroit, se fait toujours très très bien, avec un vrai respect de la part des fumeurs de ce genre d'interdiction. Ils comprennent aussi que c'est pour leur santé que ces mesures sont mises en place. Donc c'est ça qui est important.
Pour la santé, peut-être aussi pour le budget, parce que l'État est en train de chercher 40 milliards par an. Or, le cancer coûte 150 milliards.
C'est pas le cancer. C'est pas le cancer. C'est l'ensemble. Non, non. Dans le coût social du tabac en France, c'est 156 milliards d'euros quand on met bout à bout, effectivement, la maladie, toute la partie maladie, les conséquences économiques les incendies, le gasoil qu'on va mettre dans les camions de pompiers, etc. Tout ça, ça coûte 156 milliards d'euros. Le tabac, ça rapporte à peine 15 milliards d'euros. Donc on est dans un rapport de 1 à 10. Si aujourd'hui on était capable, je pense, de gagner et d'avoir un chèque de 156 milliards d'euros directement, je pense que tout le monde signerait. Donc il faut arrêter cette gabegie financière.
Avant de retourner au standard, Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes, vous souhaitez réagir. On ne va pas faire un débat entre vous deux ce soir, hein, de toute façon.
Absolument pas.
Allez-y.
Mais je veux juste saluer les propos de monsieur le maire de Saint-Malo, qui a une proposition complètement différente de l'intention de madame la ministre Vautrin. Si j'ai bien suivi votre intervention, monsieur le maire, vous avez dit que certaines plages sont à destination des fumeurs et d'autres non-fumeurs. Et c'est ça le bien vivre ensemble. C'est pas l'intégralité de votre littoral qui est interdit. Et là, chacun a sa place, chacun se respecte. Et nous sommes, dans cette mesure-là, sur une vision pédagogique, éducative, voire incitative pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Donc, ce n'est pas la totalité de votre littoral. C'est ça la différence. Le respect mutuel, il passe par l'acceptation des autres.
Merci de cette précision. CM nous appelle. Bonsoir, CM.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
J'écoute à la fois vos intervenants et vos auditrices et je suis un petit peu surprise par la réaction des auditrices. Moi, je suis non-fumeuse et je suis totalement ravie par ce qui se passe, parce que je n'en peux plus de la fumée autour de moi. Et je pense qu'on n'est pas allé assez loin, parce que pour le moment, je suis punie de terrasse. Je n'ai pas le droit d'aller... Enfin, si, je peux aller boire un verre ou manger quelque chose en terrasse, mais je ne peux absolument rien dire. Je suis enfumée. On parle de respect et de bien vivre ensemble. Quand un fumeur sort une cigarette, personne ne pose la question « est-ce que ça vous dérange ?» Et quand moi, je vais voir les gens pour leur dire « excusez-moi, est-ce que vous pouvez fumer plus loin ou pousser votre cigarette ?» C'est limite si je ne me fais pas agresser. Donc, on peut dire ce qu'on veut, le vivre ensemble, le respect, mais le respect n'existe pas. Si le respect existait, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, les fumeurs fument. Je peux comprendre qu'ils ne se posent pas la question, hein, que ça dérange ou pas. Parfois, on est même enfumé par des gens qui fument le cigare ou le cigarios. La dame parlait de la bonne odeur des cigarettes. Moi, je vous assure, ça, je ne peux plus respirer quand quelqu'un à côté de moi commence à respirer et à fumer. Et pourtant, je n'ai aucune maladie. Mais je ne supporte plus l'odeur de la cigarette. Et depuis 2007, j'applaudis des deux mains et des deux pieds si je pouvais, qu'on puisse aujourd'hui aller au restaurant sans être dérangé par la cigarette.
On va se contenter d'applaudir des deux mains. Merci beaucoup de ce témoignage, Siem. Je vais me tourner vers Gilles Lurton, maire LR de Saint-Malo. La question des terrasses, elles ne sont pas concernées pour l'instant par les restrictions de cigarettes. Vous la souhaitez? Vous souhaitez que les terrasses à Saint-Malo soient également privées de cigarettes?
Écoutez, personnellement, je crois qu'il faut y aller, petit à petit. La mesure de la ministre est déjà très large en interdisant sur l'ensemble des plages, dans les parcs et jardins, à l'entrée et sortie des écoles. Moi, je trouve que déjà à l'intérieur du restaurant, il n'y a pas le droit de fumer. Vous pouvez avoir des clients fumeurs qui se présentent dans un restaurant, qui trouvent une place sur la terrasse. La question est pour le restaurateur de savoir comment il peut séparer des fumeurs, des non-fumeurs. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Mais je pense qu'il faut quand même laisser un peu d'espace sur les fumeurs. Sur l'interdiction sur la totalité des plages, j'y suis tout à fait favorable et j'applaudis demain à la mesure de la ministre pour des questions de santé publique, bien entendu, mais après tout, ça c'est aussi la liberté de chacun, pour des questions de respect de notre littoral aussi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mégots que nous rapportent les personnes qui nettoient nos plages le matin pour qu'elles soient encore plus agréables.
On va parler des mégots. On va parler de la pollution dans un instant. Oui, pardon. On va reprendre ce thème dans un instant, hein, celui des mégots et de la pollution sur les plages. Je voudrais revenir, Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac, sur les chiffres du tabagisme qui sont en baisse constante depuis au moins 2017, moins 11% l'an dernier. À quoi est-ce dû principalement? Notamment les aides au sevrage ont fait le boulot?
Il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Hein, les aides au sevrage, effectivement, pour sortir les fumeurs du tabagisme et les aider à sortir du tabagisme, effectivement, fonctionnent. Faut voir également que toute la politique fiscale qui a été mise en œuvre fonctionne également parfaitement bien.
Hein, ces produits nicotinés
Non, sur la fiscalité, sur le tabac.
Ah, sur le tabac, l'augmentation constante des prix,
des paquets de cigarettes. Effectivement, et aujourd'hui, si on a 10 points de baisse, il faut bien voir qu'à 17 ans, en quelques années, on est passé de 25% à 15% de consommateurs chez les 17 ans. Donc ça a un effet vrai, et cette fiscalité sur le tabac, il faut la concevoir comme étant un outil particulièrement efficace, notamment sur les plus jeunes. Et là, on voit que ça marche très très bien. Donc à côté de ça, effectivement, on a aussi les paquets neutres qui sont arrivés il y a quelques années, et puis on a aussi des campagnes de prévention qui sont peut-être un peu plus efficaces qu'elles ne l'ont été par le passé. Donc la baisse du tabagisme est une réalité aujourd'hui, et un ensemble de mesures qui ont été efficaces ont été mises en place. La disparition du tabac dans l'espace public, notamment sur les plages et parcs, est un pas en avant. Votre auditrice parlait des terrasses. Je pense que là, c'est en revanche un vrai défaut de la mesure qui a été annoncée là aujourd'hui.
Les terrasses
doivent faire partie de cet ensemble, et il est inacceptable, je trouve, d'éloigner les non-fumeurs, qui représentent plus de 75% de la population française, de ces terrasses parce qu'elles sont noyées dans la fumée. Quoi.
Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, on parlait des prix du tabac. La dernière hausse date du 1er mars 2025. Peut-être dans deux jours, 1er juin, certains paquets pourraient connaître une nouvelle hausse. Est-ce que le prix du tabac qui augmente a grandement contribué, selon vous, à faire baisser le nombre d'acheteurs ?
D'abord, je vais corriger le chiffre que vous venez d'évoquer à l'antenne et que M. Josserand n'a pas contredit. 11%, c'est le chiffre que vient d'annoncer l'OFDT sur le volume du tabac vendu. Il ne faut pas faire d'amalgame entre le volume vendu et la prévalence tabagique.
Parce que les jeunes n'ont pas le droit d'acheter, mais ils fument quand même.
Ah oui, ben, ils fument peut-être quand même. Et je vous invite à regarder les réseaux sociaux où vous pouvez trouver du tabac. Je vous invite à prendre les transports en commun où vous pouvez trouver du tabac. Donc ce que je pense avec persuasion, parce que je suis dans la vraie vie et pas dans la propagande ou le populisme, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité a fait changer le comportement des fumeurs. Mais pas pour arrêter de fumer, pour contourner les règles. Regardez le bilan chaque année de la douane qui ne fait que s'accroître. Regardez, il y a 48 heures, la douane qui vient de démanteler la 9e usine clandestine de tabac dans le Nord. Regardez, il y a 48 heures, une sénatrice qui importe elle-même 110 cartouches de cigarettes dans ses valises parce que ça coûte trop cher sur le continent, sénatrice des Outre-mer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité que l'on veut ? Non. Est-ce qu'on veut que le tabac soit vendu aujourd'hui aux mains des criminels, ce qui est une réalité, parce que dans tous les quartiers, aujourd'hui, c'est la mafia, des narcotrafics qui distribuent du tabac. On s'est loupé sur les objectifs de santé publique parce que, à la rigueur, ce que je veux saluer avec M. Josserand, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus de messages de prévention, plus d'éducation dès les établissements scolaires. Et ça fait des mois et des années que je demande un travail de concertation. On nous oppose toujours que nous sommes des débitants de tabac. Je réponds que nous sommes des commerçants aujourd'hui au service des produits vendus pour le compte de l'État, et que s'il y a une vraie volonté partagée, qu'ils s'associent avec nous pour trouver des méthodes. D'ailleurs, nous faisons la promotion des produits du vapotage, qui est une alternative à la consommation du tabac par combustion.
Parce que pas un buraliste
vous dira en France que fumer est bon pour la santé, mais c'est un produit légal. À nous de travailler à l'amélioration des messages de prévention.
Et à propos du marché noir, la ministre de la Santé dit ce matin dans Ouest-France qu'elle reste prudente sur de nouvelles augmentations des prix du tabac, à cause justement, dit-elle, des ravages de la contrebande. Loïc Josserand, vous souhaitiez revenir sur ces 11%.
Non, mais là, les 11%, c'est effectivement, je suis d'accord avec cette correction. En revanche, ce qui est notoirement faux, ce sont tous ces chiffres qui sont annoncés à coup de record de saisie, etc., de tabac d'origine criminelle. Il faut voir en France, et ça ce sont des enquêtes scientifiques respectables et bien faites de la part d'un côté de Santé publique France et de l'INSEE de l'autre, qui montrent que d'une façon continue, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, 80% du tabac vendu en France est vendu dans le réseau officiel, 80%. 15% est vendu en transfrontalier ou en duty-free de façon légale. Et ensuite, il y a 5% et quelques pourcents parmi ces 5% qui sont l'œuvre du marché noir.
Donc, vous dites que ce sont des chiffres scientifiques, vous les tenez d'où ?
C'est-à-dire que ce sont des enquêtes où on a été demandé aux Français qui ou étaient achetés leur tabac, et non pas avec des méthodologies farfelues qui arrivent à des aberrations absolument inadmissibles.
Nous retournons au standard de France Inter. Claude est en ligne. Bonsoir Claude.
Bonsoir mesdames, messieurs. On parle beaucoup de lieux fréquentés par les enfants. Je voudrais savoir pourquoi il y a cette restriction alors qu'on peut devenir cardiaque par tabagisme passif. Moi, ce fut mon cas dans les années 70-80. C'était un enfer, tous les lieux publics. Les fumeurs étaient méprisaient toutes les interdictions, y compris dans les compartiments non fumeurs des trains. Enfin voilà, donc les adultes, il ne faut pas les oublier, ils peuvent devenir cardiaques. Je suis scandalisé par la première intervention, mais ma question a trouvé beaucoup de réponses entre-temps, durant toute l'émission. Fumer devrait être interdit partout où des non-fumeurs peuvent être atteints. Voilà ce que je voulais
merci, dire. Merci de ce témoignage, Claude. Vous nous appeliez de Tours. On va en parler de cette interdiction de totale de vente. Hein. C'est ce que souhaite par exemple la Ligue contre le cancer, qui veut interdire la vente du tabac à tous ceux qui seront nés après 2014. Faire une nouvelle génération non-fumeurs et par la loi, ça vous semble plausible?
C'est porté par l'Alliance du tabac. Effectivement, ça s'appelle dans le jargon la décommercialisation du tabac. C'est ce que les Anglais sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que arriver à un certain âge, à une certaine année de naissance, arriver à 18 ans, ces enfants ou ces jeunes adultes n'auraient plus la possibilité d'acheter ces produits du tabac. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'en réalité, c'est simplement la poursuite de cette interdiction de vente aux mineurs. Vente aux mineurs qui est bafouée de façon quotidienne par les deux tiers des buralistes en France. Je pense que ça, c'est quand même des chiffres à rappeler aussi.
Je ne sais pas, on va s'en enquérir auprès de Philippe Coy dans un instant.
Il ne sera certainement pas d'accord avec moi, mais c'est une réalité là aussi scientifique. Donc c'est prolonger cette interdiction, et en réalité, cette interdiction de vente, considérant que si on n'a pas commencé à fumer, 90% des fumeurs ont commencé avant 18 ans. Si on n'a pas commencé à 18 ans, on ne va pas se lever un jour à 20 ans en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais fumer », surtout autour de soi quand on n'a plus de fumeurs. Donc, cette interdiction de vente de produits du tabac au-delà de 18 ans serait une façon, effectivement, de sortir progressivement du tabagisme sans l'interdire et sans interdire de la vente des produits du tabac en France, parce que ça serait une mesure qui, à un moment, ça a été dit, serait effectivement très difficile à mettre en œuvre. En revanche, en coupant progressivement les jeunes dans leur entrée du tabagisme, en 20 ans, l'histoire serait réglée, nous serions sortis du tabagisme.
Philippe Coy, on l'a évoqué à l'instant, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des Buralistes. Est-ce que l'interdiction du tabac pour les mineurs est toujours respectée aux caisses des buralistes ?
Écoutez, je suis le premier à le dire, malheureusement non, mais en tous les cas, ce sujet, il est au cœur de notre actualité. Nous développons des programmes de sensibilisation et de formation, ça s'appelle Bob, c'est le buraliste officiellement bienveillant. Je sais que M. Josserand a un malin plaisir à venir piéger les buralistes pour remuer sur les plateaux et dans les émissions.
On va essayer de ne pas en faire de problème personnel.
Si, non, mais je préfère, ce n'est pas un problème personnel, je ne connais pas M. Josserand, mais je vois les méthodes. Par contre, moi, je suis au contact du terrain tous les jours. Je vois la réalité, que ce soit les marchés parallèles dans la rue, ou bien évidemment cette bienveillance que l'on doit avoir et vigilance pour ne pas donner de produits à des mineurs. Nous faisons d'ailleurs appel aujourd'hui à de l'intelligence artificielle pour aider cette vigilance. Vous savez, le réseau, c'est 10 millions de clients tous les jours. Nul n'est parfait et je n'ai aucune excuse quand il y a une faute. Donc on est sensible et on est sensibilisé au sujet. En tous les cas, je ne crois pas à une génération sans tabac, je ne crois pas à cette idéologie juste-boutiste, je crois plutôt à un travail concerté d'éducation, de prévention et même travaillons de concert à des offres alternatives. Bien évidemment, le tabac à combustion, c'est relativement très nocif, il y a des offres alternatives car la nicotine, elle est addictive, elle n'est pas nocive. Et ça, c'est, comme aime le rappeler M. Josserand, prouvé scientifiquement. Et que, bien évidemment, si on avait plus de place pour des offres alternatives, nous pourrions là aussi accompagner la mutation. Et je rappelle d'ailleurs que la France est le troisième pays mondial en promotion de vapotage.
Avant de retourner au standard, je veux juste cette précision. La nicotine, addictive, mais pas nocive ?
La nicotine est effectivement particulièrement addictive. Elle a des effets, notamment chez les plus jeunes, en termes de développement cérébral.
En France, les lieux où la cigarette serait interdite, dites-nous ce que vous en pensez ce soir jusqu'à 20h.
France Inter, le téléphone sonne.
Sophie est en ligne, vous nous appelez de Lyon, Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Alors moi, c'est plutôt un témoignage. Alors moi, je travaille dans une association de lutte contre les cancers, donc on est très sensible aux actes qui mènent au cancer, dont la cigarette est le premier identifié en facteur de risque. Ce qui m'amuse, en fait, ce sont ces lois qui ne sont jamais respectées. On a parlé de lois au cinéma, par exemple, où il fallait pas voir les acteurs fumer, et on n'a jamais vu autant d'acteurs. Alors, à partir du moment où l'acteur est déprimé, il doit fumer, comme si quand on était déprimé, on était absolument fumeur. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, les lois ne sont pas respectées. Donc, à quoi bon poser des lois, puisque personne ne les respecte. Les enfants, en effet, sont enfumés sur les terrasses. Moi, j'ai une petite jeune fille de 14 ans, je suis outrée. Dès qu'on est en terrasse, en effet, on est...
Et pour l'instant, c'est autorisé en terrasse, je vous le rappelle.
Ouais,
c'est pas la loi qui n'est pas respectée sur les terrasses.
Elle est mal fichue.
Elle est mal fichue, mais elle est respectée. Très bien.
Voilà. Donc, en fait, voilà. faisons des lois qui soient respectées et faisons en sorte que les gens soient punis quand ils ne les respectent pas.
Eh bien, je vais retourner votre question. Merci beaucoup, Sophie de Lyon, à Gilles Lurton, qui est le maire de Saint-Malo. À Saint-Malo, monsieur le maire, comment faites-vous respecter la loi sur les plages ou dans certains secteurs de la ville pour ne pas fumer ? Qui s'en occupe ?
D'abord, je voudrais vous dire que les choses se sont dès le début très très bien passées. Mais c'est vrai que ce n'était pas une interdiction totale sur l'ensemble des plages. Nous avons la chance d'avoir du 1er juillet au 31 août des compagnies républicaines de sécurité qui viennent renforcer nos forces de police municipale sur les plages. Nous avons la police municipale qui, pendant toute la période estivale, est très souvent à faire de la surveillance sur les plages. Nous avons les maîtres nageurs sauveteurs qui, eux, ne peuvent pas verbaliser, mais sont là pour essayer de faire de la diplomatie. Quand il y a un problème qui se pose. Vraiment, depuis le début que la mesure est en application, c'est-à-dire 2013, nous n'avons pas rencontré de problème. Il y a eu exactement, nous avons comptabilisé 32 rappels à l'ordre, c'est-à-dire 32 demandes à des personnes de ne pas fumer sur l'espace sur lequel ils se trouvaient. Nous leur avons offert un petit cendrier de plage pour éteindre la cigarette et les choses se sont très bien passées.
David Lisnard, le maire de Cannes, qui est aussi le président de l'Association des maires de France, dit depuis longtemps que faire contrôler les fumeurs sur la voie publique, ce sont autant d'effectifs que l'on retire à des missions de sécurité bien plus importantes. Vous en pensez quoi, Gilles Lurton ?
Je pense qu'il n'y a pas besoin de tant d'interventions que ça pour faire appliquer la mesure. D'abord, pédagogiquement, quand vous voyez une pancarte en arrivant sur la plage, une grande pancarte « plage sans tabac », bah vous faites attention à ne pas vous installer sur ces lieux-là. Ensuite, il suffit de quelques contrôles et tout le monde comprend très vite l'objectif de la mesure qu'on a prise. En tout cas, à Saint-Malo, je peux vous assurer qu'elle n'a posé aucune difficulté, ni au niveau de la répression, ni au niveau de la pédagogie que nous avons fait auprès des personnes qui fréquentent nos plages.
Et de Saint-Malo, nous passons à Aix-les-Bains, d'où nous appelle Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage ?
Alors, dans le témoignage, moi je suis un ancien fumeur, mais bon, j'ai toujours toléré que les gens fument. Maintenant, c'est vrai que ça peut gêner quand vous êtes à une terrasse ou à côté de quelqu'un qui fume, donc de partager la fumée de cigarette. Mais ce qui m'interpellait le plus, moi, c'est le fait qu'on a interdit la cigarette, mais pas la vapoteuse. Alors le problème, justement, est le même. La fumée de la vapoteuse, moi, quand quelqu'un vapote à côté de moi, les produits chimiques qu'il y a dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas agréable, quoi. Même à l'odeur.
Très bien. Merci beaucoup de ce témoignage. Loïc Josserand, vous êtes président de l'Alliance contre le tabac. Les produits de vapotage ne sont pas concernés, en tout cas pour l'instant, par les restrictions. Mais est-ce qu'ils génèrent aussi une addiction ? Est-ce qu'ils sont une porte d'entrée vers le tabac ?
Alors, quand ils contiennent de la nicotine, oui, il y a effectivement une addiction qui peut se créer. C'est un outil de sevrage. Et ça, aujourd'hui, il n'est plus question de remettre en jeu ce propos-là. Ça aide effectivement un certain nombre de fumeurs tous les ans et c'est un des premiers outils de sevrage aujourd'hui qui peut être utilisé. Ça, je pense que c'est incontestable. En revanche, normaliser la fumée dans ces espaces où c'est interdit avec l'usage de la cigarette électronique, effectivement, est quelque chose qui peut interroger.
Parce que cette fumée, on sait qu'elle est nocive, la fumée des vapoteuses.
Alors, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de...
D'ailleurs, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur
d'eau. C'est une forme de vapeur. Ce n'est pas exactement de la vapeur d'eau, mais c'est de la vapeur. La difficulté aujourd'hui avec la démonstration de la toxicité ou pas de ces produits-là, c'est que nous n'avons pas un recul suffisant et surtout, nous n'avons pas de cohorte de vapoteurs purs pendant suffisamment d'années qui pourraient permettre d'attribuer de façon certaine les problèmes rencontrés à ce vapotage. Aujourd'hui, la majorité des vapoteurs ont été fumeurs à un moment ou sont vapofumeurs. Et donc, ce qui fait qu'il y a un mélange complet du risque auquel ils sont exposés et il est de ce fait extrêmement compliqué d'arriver à identifier les risques liés au tabagisme et ceux qui sont liés directement au vapotage.
Et dans Ouest France, ce matin, la ministre envisage, avec l'ANSES et puis aussi avec la Haute Autorité de Santé, de faire baisser le taux de nicotine dans les produits de vapotage. Ce serait une entrée en vigueur à la fin du premier semestre 2026. Si on retire de la nicotine dans les vapoteuses, est-ce que ça ne risque pas de faire retourner les fumeurs chercher leur dose de nicotine dans les vrais paquets de cigarettes ?
Ils tireront peut-être un petit peu plus sur... Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle dose elle veut les faire baisser. Je ne sais pas où ce seuil s'arrêtera. Ce qui est intéressant également, je ne sais pas si la proposition est arrivée, mais en tout cas, elle veut aussi limiter les parfums. Donc ça, je pense qu'il y a des parfums qui
limiter le nombre d'arômes,
qui sont extrêmement attractifs pour les jeunes. Si c'est fraise, ça n'a pas besoin d'être fraise glacée, qui elle va être plus attractive chez les plus jeunes, par exemple. Où là, effectivement, ces produits-là peuvent aussi apparaître comme des portes d'entrée vers le tabagisme derrière, surtout vers l'addiction à la nicotine. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que nous sommes non plus seulement en face d'un marché du tabac classique, avec la cigarette manufacturée que nous connaissons, mais avec la création d'un marché de la nicotine, sur lequel on retrouve une diversité de produits qui sont la cigarette manufacturée, la vapoteuse, le tabac chauffé, les gummy beers, les perles de nicotine, le snus, le nicopouch, la chicha. Enfin, tout ça, c'est le marché de la nicotine, avec des consommations croisées permanentes entre ces produits. Donc, contrairement à ce qui a été dit précédemment, ce marché vise à capter les nouveaux consommateurs, à les amener sur ce marché de la nicotine, et dans lequel ils ne sortiront que difficilement au bout de quelques années, avec un croisement permanent des produits et une exposition au risque direct du tabac, de la chicha, du tabac chauffé, qui eux sont de véritables cancérigènes.
La nicotine, c'est une façon d'apper, hein, c'est addictif. Et Philippe Coy, président de la Confédération des Buralistes, le marché des vapoteuses et des produits, des arômes, c'est un gros marché aujourd'hui pour les buralistes ?
Effectivement, c'est d'abord un marché très important en France. Je le rappelle, le troisième pays mondial où se développent les produits liés au vapotage. Et j'y vois, et pour le coup, je suis complètement aligné avec M. Josserand, une vraie offre alternative pour les consommations de tabac par combustion. Et je crois qu'il y a un vrai sujet d'accompagnement là-dessus. Retirer des taux de nicotine, pour moi, n'est pas une solution, car aujourd'hui, quand vous passez d'une cigarette et que nous accompagnons nos consommateurs vers une offre alternative que propose le vapotage, nous commençons par des niveaux de nicotine un peu élevés, et petit à petit, ça consommation de nicotine baisse. Donc si vous n'avez pas des niveaux un peu répondant à l'usage de la cigarette, vous ne ferez pas le switch pour le consommateur. Donc il a besoin de retrouver une puissance qui petit à petit diminuera. Sur les arômes, je suis absolument aligné avec M. Josserand. Ces arômes créés pour des goûts infantiles ne doivent pas aujourd'hui exister. Le vapotage, c'est un produit destiné aux adultes majeurs, bien évidemment, avec des goûts responsables. Supprimer les arômes serait une ineptie, puisque vous remettriez le subconscient de chacun d'entre nous vers le goût du tabac si vous ne conserver que le goût tabac, comme l'ont fait les Chinois. Il est nécessaire de garder des alternatives en termes de goût pour s'éloigner et ne pas avoir le réflexe de rechercher le goût du tabac. Par contre, les arômes qui ont été fabriqués pour des cigarettes électroniques avec un objectif très clair de séduire des jeunes, je les bannis bien évidemment. Donc là-dessus, il y a un vrai travail. Et je voulais aussi évoquer le rôle responsable des buralistes en accompagnant ces consommateurs, parce que nous sommes conscients du mouvement sociétal, de l'évolution, et que notre rôle, il est aussi d'accompagner ces gens-là vers ces produits alternatifs. Monsieur Josserand vient d'en citer toute une série. Je crois qu'aujourd'hui, il est bon de travailler à l'encadrement de la nicotine, parce que je rappelle que sur le territoire français, il n'y a pas de règles de législation pour la nicotine. Il y a une règle sur les tabacs manufacturés, comme ça a été rappelé, il y a une règle du Code de la santé publique pour les produits du vapotage, et le reste de la nicotine ne souffre d'aucune réglementation. Je pense que c'est une urgence aujourd'hui de donner un cadre réglementaire pour pouvoir commercialiser ce produit et offrir des alternatives.
Loïc Josserand, vous voulez y répondre ?
Oui,
une auditrice nous attend.
Il n'y a pas d'alternative à trouver. Tous ces produits-là doivent être non pas réglementés mais interdits, et l'objectif est effectivement d'être en capacité d'avoir une réglementation parapluie qui nous permette d'éviter leur implantation sur le marché avant qu'on puisse réglementer. Donc une réglementation qui permette d'empêcher leur arrivée sur le marché.
01 45 24 7000, Sonia nous appelle du Puy-en-Velay. Bonsoir Sonia.
Oui, bonsoir. Donc moi c'était juste pour apporter un témoignage, hein, puisque j'ai mon fils qui vient en Australie et il me disait que le prix du tabac était extrêmement cher là-bas, le prix d'un paquet de cigarettes.
C'est-à-dire
et lui, alors, je sais pas, franchement, je n'ai pas retenu, mais je sais pas, c'est peut-être 30 euros, enfin, c'est vraiment très cher. Hein. Et donc, il me disait qu'il se retrouve beaucoup entre Français dans les auberges de jeunesse, et quand ils sortent, en fait, ils sont assez mal vus, justement, parce que les Français, eux, par contre, fument beaucoup par rapport aux jeunes, voilà.
Les jeunes Français fument plus que les autres en Australie, a priori. Philippe Coy, merci de ce témoignage, Sonia. Philippe Coy, est-ce que vous avez d'abord une précision sur le prix du paquet de tabac en Australie ?
Oui, le prix du paquet de tabac en Australie est un des plus élevés, me semble-t-il, de la planète. C'est autour de 27-28 dollars le paquet. Et bien évidemment, si vous regardez les actualités, ils sont en proie aussi à des réseaux mafieux qui viennent distribuer ce produit, alors que l'Australie est une île. Et pire, au comble de l'insécurité, les tabacs officiels aujourd'hui se font agresser par ces bandes afin de reprendre la main sur la prohibition, je
en
dirais,
France.
Du tabac.
Donc,
je
suis en
pas
France,
sûr. Et en France, on a
12,50 euros le prix du paquet de cigarettes. Je voyais ça ce matin. Est-ce que c'est plus ou moins cher que la moyenne européenne?
C'est le premier prix de l'Union européenne. En Espagne, à côté de mon établissement, c'est 6 euros. Si vous allez en Andorre, c'est 3,50 euros. Si vous allez en Italie, c'est 6,80 euros. Voilà la résultante d'un marché européen qui est complètement déstructuré.
Il nous reste une minute. Je voudrais aller vers Gilles Lurton, le maire de Saint-Malo. Je vous ai coupé tout à l'heure quand vous parliez de la pollution, de tous ces mégots sur les plages. Au-delà de la santé, donc cette pollution des plages, les mégots de cigarettes, comment est-ce que vous gérez les mégots écrasés dans le sable à Saint-Malo?
Alors, pendant la période estivale, le 1er juillet au 31 août, nous avons des personnes qui circulent tous les matins sur les plages et qui ramassent tous les déchets qui peuvent s'y trouver, dont les mégots de cigarettes. Et moi, je suis effrayé de voir le nombre de mégots que nous pouvons ramasser. Un mégot, ça met énormément de temps à se dégrader dans l'environnement. Ça va vers la mer, ça pollue notre littoral, ça pollue les océans pour des années et des années. On dit le temps de décomposition d'un mégot, c'est 15 à 20 années. Hein, donc voilà, donc là-dessus, la mesure, elle me paraît encore plus justifiée pour la préservation aussi, pour la santé d'abord bien entendu, mais également pour la préservation de notre littoral.
Eh bien merci à tous les trois, on aurait bien pu faire deux heures d'émission, on aurait pu faire deux heures d'émission sur ce thème. Évidemment il est 19h58, merci de toutes vos réponses et merci aux auditeurs de France Inter, le téléphone sonne, c'est terminé.